Europe 1.
Europe 1 Social Club, le débat, Frédéric Taddeï.
Social Club, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle tranche, 19h-21h, la promesse est toujours la même, hein, comprendre notre époque que l'on dit incompréhensible, et bien non, elle n'est pas incompréhensible et nous allons le prouver en la décodant ensemble tout au long de l'année. Jusqu'à 20h, c'est le débat, ce soir Donald Trump, sait-il ce qu'il fait ou fait-il n'importe quoi en Corée du Nord, en Afghanistan, en Syrie, vis-à-vis de la Russie, de la Chine ou du Venezuela, qu'il a menacé, je vous le rappelle, d'une option militaire. On en débat tout de suite avec des gens qu'on n'entend pas ailleurs, des gens qui s'y connaissent vraiment, qui ont vraiment travaillé la question et qui ne sont pas d'accord entre eux. Et oui, c'est comme ça, le monde est comme ça, il est fait de gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors pour nous éclairer sur la politique étrangère de Donald Trump, ce soir il y a Bertrand Badi qui est professeur en sciences politiques à Sciences Po, l'auteur de « Nous ne sommes plus seuls au monde ». Vous étiez venu en parler dans Europe 1 Social Club au moment de sa sortie. Alors d'après vous, il fait n'importe quoi Trump, il n'a pas de vision?
Bah, il a des lignes directrices, nationalistes, néo-nationalistes, on verra ça. Mais comme elles sont totalement inapplicables, il donne une impression zigzagante et il est obligé de donner l'illusion de pouvoir agir dans un monde qu'il ne comprend pas.
Caroline Garalidakteros est en face de vous. Vous êtes colonel de réserve. Vous avez enseigné la stratégie et l'éthique à l'école de guerre. Vous dirigez un cabinet d'intelligence stratégique, Planeting. Il a une stratégie pour vous, Donald Trump?
Je ne sais pas s'il a une stratégie, mais je pense qu'il y a une certaine cohérence. La question, c'est est-ce la sienne? Est-ce que c'est lui qui est à la manœuvre ou est-ce que c'est d'autres courants qui ont décidé de la politique à mener?
Qui ce serait le complexe militaro-industriel, les républicains, les faucons, le vice-président, la CIA?
On y reviendra certainement, mais il me semble clair qu'il y a un certain nombre de gens qui désormais ont un peu pris la main sur ce qui se dit et se décide à Washington.
On va en parler tout de suite. Guillaume Lagane, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialisé dans les questions de défense et de relations internationales. Vous avez publié « Théorie des relations internationales » chez Ellipse en 2016. La politique étrangère de Trump, pour vous, elle a un sens ?
En tout cas, elle a une cohérence au moins formelle. Trump nous avait promis lors de son élection qu'il serait un président imprévisible, hein, qui ferait de cette imprévisibilité sa marque de fabrique. Et pour ça, la promesse est tenue. Alors c'est vrai que de l'extérieur, ça peut quand même donner l'impression d'une forme d'un petit peu de zérement, des zigzags. Mais je crois quand même que sur le fond, cette imprévisibilité même, c'est pas seulement une forme, c'est aussi une manière d'aborder les relations internationales qui lui donne une cohérence.
Enfin, Laurence Nardon, vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors, le président des États-Unis, pour vous, a-t-il une pensée cohérente en politique étrangère?
Alors, c'est intéressant parce qu'on a chacun notre propre... on reconstitue chacun une cohérence pour ce monsieur. Pour ma part, moi j'avais vu une grande cohérence pendant la campagne où il développait une vision de politique étrangère qui était très claire, qui était très jacksonienne.
Andrew Jackson,
président du 19e siècle, des années 1830.
Avec qui on peut le comparer d'ailleurs, hein. Ils sont incultes tous les deux, on leur reproche.
Et c'était un populiste déjà, donc c'était la même chose. Et en matière de politique étrangère, comme Trump, il défendait l'idée d'un nationalisme de repli très égoïste, très America first. Et c'est ce que Trump a défendu pendant sa campagne, c'est-à-dire on ne va pas s'engager pour des questions de morale ou de quoi que ce soit dans le monde. On va se retirer pour essayer de refaire une Amérique forte, hein, son slogan. On ne s'engagera que quand l'intérêt des citoyens américains sera directement en jeu, c'est-à-dire le terrorisme, c'est-à-dire l'immigration illégale, c'est-à-dire le dumping social chinois, etc. Et c'est ce qu'il a annoncé pendant toutes ses campagnes. Et là où l'incohérence, l'imprévisibilité arrive, c'est que depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il fait... pas exactement ça. On l'a vu, alors donc sous l'influence de ses conseillers, certainement, du lobby militaro-industriel peut-être, on l'a vu faire d'autres choses, aller dans en sens inverse.
C'est de cela que l'on va discuter tout de suite. Il s'était fait élire sur un programme plutôt isolationniste, rétif aux interventions militaires extérieures. Ça inquiétait beaucoup les commentateurs en France d'ailleurs. Ils devraient se réjouir, Guillaume Legan.
Oui, d'une certaine manière, c'est une bonne surprise que Trump nous a réservé, puisque
enfin,
par rapport à ce qui,
des enfin, opinions des non,
mais
des autres,
globalement, mais... par rapport à ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire à ce discours America First, il a pris un certain nombre de décisions qui sont pour les commentateurs, enfin, et pour, je dirais, la communauté internationale, qui peuvent être problématiques. Je pense au retrait du traité de Paris. À l'abandon.
Sur le réchauffement climatique.
Voilà, je pense à l'abandon du traité de libre-échange, enfin, du projet de traité de libre-échange avec le Pacifique. Donc, un certain nombre de décisions. Et puis, on peut parler aussi du Muslim ban, enfin, de ces questions de valeurs qui sont un peu en rupture avec ce qui était le consensus. Mais en même temps, d'autres décisions de Trump sont venues un peu rassurer ceux qui craignaient vraiment. Que l'Amérique parte vraiment complètement en dérapage. Je pense par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, à son intervention en Syrie, qui a beaucoup surpris les commentateurs et qui tranche avec ce qu'a fait Obama, c'est-à-dire
rien. C'est le tournant hein, à ce moment-là. On va y revenir, mais d'abord, il a annoncé une augmentation de 10% du budget de la défense. Je rappelle que le budget de la défense américain, c'est déjà le plus gros du monde. Hein. Il dépense plus que la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France réunie. C'est une super puissance militaire, les États-Unis. Alors Obama, on s'en souvient, avait réduit le budget de 10%. Trump l'augmente de 10%. Il a raison, Caroline Galacteros.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être un malentendu initial sur le terme « America first », parce qu'on l'a renvoyé à une réalité historique. Mais l'Amérique en premier, ça ne veut pas dire l'Amérique toute seule, ni l'Amérique en retrait. Ça veut dire une autre façon de remettre l'Amérique au cœur du monde, parce qu'elle est effectivement en repli sur tout un tas de sujets aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de la Russie, que ce soit évidemment dans ce qui est maintenant très structurel selon moi, c'est le duel avec la Chine. Et on peut comprendre et analyser toutes les dernières décisions qui paraissent peut-être un peu comme ça désordonnées à l'aune de ce vrai sujet qui est celui de la position de la Chine, que ce soit en Afghanistan, que ce soit vis-à-vis de l'Iran, que ce soit vis-à-vis de la Russie. Maintenant, l'Amérique de Trump et les gens qui, à Washington, prennent les décisions, contrôlent, menacent, font pression sur lui, etc., prennent des décisions pour ne pas laisser passer. Cette arrivée de la Chine. Et ça se voit partout, ça se voit au Moyen-Orient, ça se voit partout. Je pense aussi à la Turquie, évidemment, qui est maintenant en train de nouveau se rebalancer, faire jeu clairement maintenant avec l'Iran et la Russie. Donc l'Amérique est en repli sur pas mal de sujets, est en position délicate. Et je pense que la dernière annonce là, sur l'Afghanistan, sur la petite remontée, on va voir encore combien, comment, pourquoi, combien de temps. Bon, mais en tout cas, la petite remontée en puissance, c'est typique. Ce n'est pas l'Afghanistan qui est en cause. Il ne s'agit pas de gagner la guerre en Afghanistan. Personne n'y arrivera jamais.
Personne
ne l'a jamais gagné, déjà. En revanche, contrôler la Chine, la Chine et le Pakistan, oui, ça c'est un sujet. Quand on voit que Donald Trump vient de demander aux Indiens même de s'intéresser à l'Afghanistan, c'est quand même très intéressant.
Alors justement, ce revirement hein, qu'on observe à partir du 6 avril, ce qu'on a pris pour un revirement, un tournant en tout cas, quand Donald Trump a ordonné de bombarder les positions de Daesh en Syrie, tout le monde a applaudi, hein, je le disais. Pareil, quand il a envoyé sa grosse bombe, la GBU-43, 11 tonnes de TNT, la mère de toutes les bombes, comme on la surnomme là-bas, le 14 avril sur des grottes en Afghanistan. Depuis, il a annoncé qu'il envoyait, alors pour l'instant, 3 900 militaires en Afghanistan, mais surtout, il s'est engagé à gagner la guerre. Ça doit vous faire rire, Bertrand Badi.
D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir envie de rire. Il faut quand même mesurer l'épaisseur des contradictions. Hein. Le président Trump a été le premier président des États-Unis élu sur un programme anti-mondialisation, sur une critique de la mondialisation. Regardez ses deux prédécesseurs, c'est intéressant. George W. Bush, champion du néoconservatisme, s'était considéré que la mondialisation était une aubaine pour le messianisme américain de répandre partout le modèle américain, d'où l'interventionnisme, d'où l'Irak, l'Afghanistan aussi d'un certain point de vue. Et son successeur, c'est également quelqu'un, Barack Obama, qui partait d'une vision très précise et rigoureuse de la mondialisation, en disant justement cette mondialisation ne permet plus au hard power, ne permet plus à la puissance militaire de faire la loi, et sans le dire explicitement, il faisait comprendre au peuple américain que le temps du leadership américain, pour ces raisons, était dépassé. Bon, maintenant, on a quelqu'un qui dit, mais ce qui compte, c'est la nation américaine, et on va instrumentaliser la mondialisation. Quand elle permet de satisfaire les intérêts des États-Unis, on y va. Quand ça ne permet pas, on n'y va pas. C'est une position intenable. C'est une position intenable parce que la mondialisation, c'est une donnée qui ne peut pas être abolie. Elle structure, organise notre monde tel qu'il est. Et du coup, ça oblige ce malheureux à faire des zigzags assez étonnants. Alors, de temps en temps, la grosse bombe montrait la puissance militaire américaine, mais c'est de l'interventionnisme, ça, n'est-ce pas? L'interventionnisme que l'on condamnait autrefois, n'est-ce pas? De temps en temps, être sourd à des problèmes qui sont réels, comme le climat. Tout ceci est incohérent. Et quant à l'illusion de pouvoir tenir la Chine, est-ce que c'est le bon pas pour entrer dans la relation internationale d'aujourd'hui? Ça me fait rire. Vous voyez, je ris pas beaucoup avec Trump, mais ça me fait beaucoup rire.
On va voir si les autres rient aussi. On se retrouve dans un instant.
Europe 1 Social Club. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Taddeï.
Et le débat de ce soir, c'est sur Donald Trump. C'est-il ce qu'il fait ou fait-il n'importe quoi en politique étrangère? Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur la Corée du Nord parce que ça a été l'un des feuilletons de cet été. Je disais, certains se sont réjouis quand Donald Trump est intervenu en Syrie ou en Afghanistan, mais tout le monde s'est inquiété quand il a menacé de porter le feu et la colère, comme il disait, en Corée du Nord. Et on a vu tout à coup un peu deux mégalomanes, hein, Kim et Donald Trump, de fils à papa, multiplier les rodomontades. Alors, pour vous, Caroline Galecteros, il y a une cohérence là?
Moi, je trouve qu'il a assez bien géré l'affaire, personnellement. Je pense qu'il a juste, il a bien fait monter la pression. Il a peut-être fait qu'à un moment donné, même les Coréens du Nord se sont dit « Oula, 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 on se calme ». Bon, deuxièmement, il ne faut pas oublier, il a là aussi un autre problème, c'est qu'on dit que certains des essais balistiques faits par la Corée du Nord ont bénéficié d'une technologie militaire d'origine, je vous le donne en mille, ukrainienne. Donc là aussi, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Deuxièmement, à travers la Corée du Nord, comme d'habitude, c'est à Pékin qu'on s'adresse. Bon, alors
Pékin,
dans quelle mesure
Pékin qui est le premier allié, Pékin le premier partenaire voilà. commercial de la Corée voilà. du Nord, bien entendu.
Alors dans quelle mesure Pékin tient-il son petit,
son vassal,
ce, son petit son vassal. Vassal Est-ce que c'est encore un vassal? Dans quelle mesure est-ce encore un vassal? Je n'en sais rien. Mais là aussi, on sait très bien que Kim Jong-un, comme son père, comme son grand-père, etc., font du chantage toute la journée, du chantage économique, du chantage stratégique, etc.
Et c'est un état nucléaire.
Oui, mais c'est un état nucléaire. Voilà, si l'Irak avait été nucléaire, il n'y aurait pas eu 2003, si l'Iran était
donc,
déjà
nucléaire.
Donc ça veut dire,
vous dites en fait, grosso modo, qu'on ne peut rien faire contre la Corée du Nord aujourd'hui.
Et non, on peut régler la question probablement avec la Chine, on peut trouver des arbitrages, et c'est un billard à beaucoup de bandes. Vous avez parlé tout à l'heure de menaces de sanctions douanières, etc.
Contre la
relevées,
Chine.
Voilà. Bon, c'est un jeu qui se joue sur plein de théâtres en même temps. Mais pour moi, le haut de la pyramide, c'est quand même ce duel. Alors bien sûr, est-ce que l'Amérique a raison de prendre le duel avec la Chine comme elle le fait? Je ne sais pas, je pense que Trump, bien sûr, c'est pas la mondialisation qu'on va remettre en cause, etc., c'est une évidence, mais en revanche, il est pragmatique, il est aidéologique, et ça, c'est très nouveau.
Laurence Tardon?
Oui, sur la Corée du Nord, effectivement, il y a eu ce feuilleton véritablement inquiétant cet été. Et je crois que vous avez raison, en fait, c'est trop tard avec la Corée du Nord. Ce qui s'est passé depuis 20 ans à peu près, il y a eu le dialogue des six, etc. On a quand même, la communauté internationale a fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une solution pour que la Corée du Nord interrompe son programme nucléaire et balistique. En fait, ça n'a jamais marché. Les Nord-Coréens nous ont sans doute menés par le bout du nez. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une situation où le seuil nucléaire a été dépassé, a été franchi par la Corée du Nord, qui aujourd'hui a des capacités, alors, elle y travaille encore, manifestement, hein, notamment sur le plan balistique. Elle est parvenue aujourd'hui à une situation, une capacité de dissuasion du faible au fort, qui est en réalité exactement la même que la France. C'est-à-dire oui. les petits pays nucléaires qui ont une capacité nucléaire qui est équivalente, en tout cas dans leur discours et dans ce qu'on peut craindre dans les mois qui viennent, équivalente à ce qu'on détruirait en allant les frapper eux. Donc ça veut dire qu'ils sont finalement tout aussi puissants nucléairement qu'une grande puissance,
oui,
puisque c'est un jeu asymétrique.
On peut les
pas
vitrifier, mais ils auront quand même eu le temps d'envoyer quelques missiles et quelques bombes.
Et du coup, ça ne vaut pas le coup. Et donc la situation est véritablement inextricable. Et ça montre bien que quelquefois, dans les relations internationales, il n'y a pas de bonne solution. Quelle est la bonne solution avec l'accord du Nord? Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Oui.
Il y en a pas. Sauf et donc les choses s'aggravent du fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous avons ces deux alpha males légèrement inquiétants côté Pyongyang et côté Washington aussi, imprévisibles en tout cas. Et clairement, je ne crois pas pour ma part que la Chine soit un levier parfaitement efficace pour les États-Unis. Hein. Les Chinois ne se laissent pas faire. Enfin, il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est à double détente. C'est-à-dire que les Chinois n'ont pas une capacité d'influence totale sur la Corée du Nord qui n'en fait qu'à sa tête. Enfin, les relations entre les deux pays sont très complexes. Il y a l'armée, il y a les partis, il y a les gouvernements. Enfin, donc c'est pas aussi simple que ça. Et ensuite, bien évidemment, deuxième partie de l'équation, la marge de manœuvre des États-Unis sur Pékin est très faible.
Très faible, oui.
C'est un vaste marché.
Moi, je rejoindrai quand même Caroline dans le sens où je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'analyse du problème nord-coréen. On a tout essayé, on a scié la négociation avec les six-party talks, on a scié les sanctions avec l'administration Bush. On a essayé l'indifférence, parce qu'Obama, c'était la patience stratégique, c'est-à-dire on répond pas, on fait comme si on voyait pas. Bon, Trump, il a effectivement été élu sur un programme volontariste, America First, je vous propose. Donc il peut pas, je pense, maintenir cette attitude d'indifférence d'Obama. Et du coup, je pense que effectivement, même si c'est un peu brutal, et si on s'est demandé en un instant si ça allait pas déboucher sur un conflit de grande ampleur, etc., cette manière de faire pression sur Pékin, je pense qu'elle a quand même une forme de rationalité, parce que malgré tout, quand vous regardez les grandes données de l'économie nord-coréenne, si la Chine était vraiment sérieuse dans la volonté d'étrangler cette économie-là, ça serait très rapide. Parce que l'essentiel des exportations, par exemple en charbon, passe par la Chine, etc. Donc, on sait bien qu'il y a un jeu de dupes entre les deux grands. Et finalement, du point de vue de Trump, même si c'est brutal, le fait de vouloir tordre le bras de la Chine sur ce dossier-là et de la forcer à changer sa politique, ça peut être, je pense, une forme de rationalité.
C'était Guillaume Lagan. Un mot, Bertrand Badie.
Oui, c'est là que je ne suis pas d'accord. C'est là que le monde a changé. C'est-à-dire que le phénomène de tutelle du grand frère sur le petit frère, c'est fini. La tutelle des États-Unis sur Israël, la tutelle des États-Unis sur la Géorgie, c'est terminé. La tutelle des États-Unis sur les pays d'Amérique latine, c'est terminé également. La capacité, le fait de croire que Pékin peut faire changer d'avis Pyongyang à partir d'une décision, ça, ce n'est plus possible. Mais il y a un facteur aggravant, c'est justement les sanctions. C'est-à-dire cette rationalité qui consiste à dire, effectivement, on va tordre le bras du partenaire pour le faire changer d'avis. C'est doublement erroné.
Ça n'a jamais marché non plus.
D'abord, ça n'a jamais marché. Deuxièmement, il faut voir une chose, c'est qu'en votant les premières résolutions au Conseil de sécurité sanctionnant la Corée du Nord, la Chine a fait un pas de géant en direction des États-Unis. Maintenant, se lancer dans une deuxième campagne de sanctions, là, c'est tout à fait contre-productif, parce que ça va à l'encontre d'un des principes fondamentaux de la mondialisation, qui est de l'interdépendance des économies. C'est-à-dire, à force de sanctionner la Corée du Nord, on va toucher les entreprises chinoises. Ça, les Chinois le savent. Et croire que l'on peut, à partir d'un rapport de puissance, modifier les diplomaties chinoises, c'est quelque chose qui faisait sens dans le contexte de la bipolarité, qui est maintenant totalement contre-productif. Vous savez, quand Trump a été élu, les Chinois étaient plutôt contents. Parce qu'effectivement, c'était une rationalité audible, défendre les intérêts nationaux. Et à partir de cela, les Chinois ont imaginé un nouveau jeu international qui, par convergence d'intérêts nationaux, pouvait définir les conditions d'un nouvel équilibre.
Comme
ça,
Poutine,
c'est en train d'être ruiné par une politique aveugle de Trump.
Je réponds juste sur les sanctions. Et Caroline Galactero,
c'est pas tout à fait exact. Parce que, d'abord, il y a des sanctions qui marchent. L'Afrique du Sud a été sanctionnée, et puis finalement, l'apartheid a disparu. Donc ça a quand même, parfois, une utilité. Et puis, s'agissant des sanctions contre la Corée du Nord,
c'est le seul exemple.
Écoutez, il existe.
Et puis il y a d'autres raisons pour que ça s'écroule.
Oui, voilà,
bien sûr. Mais fondamentalement, c'était pas des gens gentils. Ils n'allaient pas le faire parce que c'était pas bien. Ils l'ont fait parce que c'était désagréable pour eux de rester dans cette situation. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la Corée du Nord et les sanctions, c'est pas tout à fait exact. Bien sûr qu'il y a des sanctions, mais des sanctions, il y en a depuis les premières résolutions au Conseil de sécurité en 2002. Mais la Chine n'a jamais appliqué les sanctions. Elle les vote, elle ne les applique pas. Donc si vous voulez. C'est intéressant parce que Trump aussi, c'est une manière aussi qu'on a de le critiquer. Il dit un peu que le roi est nu. Il dit, ok, on fait ça, mais en réalité, les gens ne suivent pas. Donc, vous voyez, il y a aussi ce retour à la réalité.
Un mot, Caroline Galecteros.
Moi, je crois qu'effectivement, si on ne peut pas dire aujourd'hui que la Chine ou les États-Unis ont la main sur leurs anciens vassaux, en revanche, ces petits vassaux ont une capacité de nuisance très intelligente. C'est comme la Turquie en OTAN par rapport à l'Amérique et par rapport à la Russie. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a la Corée du Nord, mais il y a un autre en miroir. On peut aussi penser au Pakistan. L'Amérique est dans une situation délicate aussi vis-à-vis du Pakistan. État nucléaire, comme la Corée du Nord. Et là aussi, elle est coincée parce qu'elle essaie. Le Pakistan est l'un des points d'ancrage majeurs de la stratégie chinoise maintenant avec les nouvelles routes de la soie pour aller en Europe. Pour faire en sorte de dominer l'Eurasie puis l'Europe. Et donc, le jeu en ce moment américain, que ce soit vis-à-vis de la Corée du Nord, que ce soit vis-à-vis du Pakistan, que ce soit vis-à-vis de l'Iran d'ailleurs.
Ou de l'Afghanistan, puisque ou de l'Afghanistan, c'est tout à côté du Pakistan.
Voilà, tout ça est lié justement au fait que, comme vous l'avez dit, il y a le pouvoir égalisateur de l'atome, c'est-à-dire qu'on soit un petit ou un grand état nucléaire. C'est l'équilibre de la terreur d'une certaine manière, ou en tout cas trop d'incertitudes pour prendre un risque. Mais chacun essaie de faire jouer ses avantages dans un jeu qui est très large, dans un marchandage qui est extrêmement global. Maintenant, sur les sanctions, je pense que l'économie nord-coréenne est déjà tellement fermée, clôturée, cadenassée. Je ne suis pas, à vrai dire, certaine que nous, si on faisait des sanctions vis-à-vis de la Corée du Nord, ça va juste les pousser.
Le commerce
l'armée économique,
La Chine,
elle fait là un cadeau qui ne lui coûte entre guillemets pas très cher en nous soutenant à l'ONU.
Interromps, on se retrouve dans un instant pour continuer notre débat.
Europe 1 Social Club. Europe 1 Social Club, le débat. Frédéric Taddeï.
Alors, qu'est-ce qu'il veut faire exactement Donald Trump? On en débat avec Bernard Trambadi, Caroline Galacteros, Laurence Nardon et Guillaume Le Gann. Le Venezuela, voilà quelque chose de nouveau. Tout à coup, on a entendu Donald Trump menacer le Venezuela d'une possible option militaire. Comment l'avez-vous compris, Bertrand Badie?
Vieux réflexe périmé, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la puissance et sa forme paroxystique et la puissance militaire peut tout régler. C'est-à-dire à partir du moment où il y a du désordre qui ne plaît pas quelque part, on utilise la force. Le problème c'est, retournons-nous une seconde, où cela a-t-il fonctionné? Où cela a-t-il fonctionné? C'est-à-dire que est-ce véritablement un choix stratégique ou une émotion d'un moment, Trump nous révèle une part importante de sa grammaire, c'est-à-dire nous avons la puissance et cette puissance nous permet effectivement d'imposer un ordre. C'est exactement là-dessus que le monde ancien s'est effondré. On est tout à fait à contre-courant des transformations du jeu international.
Les Français disent la même chose. Quand on intervient au Mali, quand on intervient en Libye, on dit nous avons la force, nous avons le droit.
Et ça a marché. Vous croyez que ça a marché? Vous croyez Y a-t-il une intervention militaire dans l'histoire qui ait fonctionné, qui ait abouti à réaliser ce vœu, ce choix, cette philosophie?
Heureusement que les Américains ont débarqué en 1944.
Vous ne pouvez pas confondre une guerre mondiale et une intervention militaire dans un pays dont le désordre ne convient pas à la puissance hégémonique. Vous avez raison, vous avez gagné. Les États-Unis ont réussi en 1983 à écraser une armée de 89 hommes. Effectivement, c'est une prouesse qu'il faut saluer.
On l'avait salué à l'époque, Bertrand Badie.
Mais oui, parce c'est formidable.
Que c'était la première
une puissance nucléaire, 46% des dépenses militaires mondiales, qui réussit à écraser. Qu'est devenu le Kosovo? Est-ce que véritablement vous considérez que l'intervention de 1999 ait pu créer un ordre politique stable dans la région? Voilà un État qui n'est toujours pas membre des Nations Unies, qui n'est toujours pas reconnu, dont la dérive mafieuse est saluée par tous les commentateurs.
Mais il y a une base au cœur de l'Europe.
Bah oui, d'accord, mais est-ce que c'est ça la finalité?
Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que, évidemment, on peut regretter la situation actuelle du Kosovo, mais par rapport à celle de 99, par rapport au massacre, l'épuration ethnique, etc., il y a eu un léger progrès.
Caroline n'est pas d'accord, je sais, mais.
L'ancienne spécialiste des Balkans et des
trucs asiatiques. D'accord,
mais c'est pas le sujet du débat.
Voilà. Non, si, mais c'est vrai que ça l'est un petit peu quand même. Ça l'est un petit peu quand même, parce que si on revient sur le Venezuela, là aussi, c'est un peu surprenant par rapport à ceux qui voyaient Trump isolationniste, indifférent au reste du monde, etc. Là, on découvre un Trump tout à fait différent. C'est celui dont je parlais tout à l'heure en Syrie, c'est-à-dire soucieux du bien-être de populations qui ne sont pas américaines. Au moment où il construit un mur avec le Mexique et il plonge ce pays dans la colère, etc., il se préoccupe de la population vénézuélienne qui n'est pas très satisfaite de son gouvernement. Alors, l'option militaire, c'est la nouvelle mère Teresa
du système international. Magnifique.
Il a les yeux qui plissent quand il nous dit ça. Je crois qu'il n'y croit pas tellement. Caroline, vous voulez répondre?
Oui, je pense que c'est de l'ironie. Je pense qu'il a peut-être des souvenirs de la doctrine Monroe. Bon, voilà, ça c'est une chose. Mais je crois surtout que Donald Trump n'est plus celui qui dirige à Washington.
Mais vous ne nous avez toujours pas dit qui dirige à sa place.
Mais regardez le casting. Tout a été refait. Tout, depuis la veille de son investiture jusqu'à aujourd'hui, tous les gens quasiment qu'il a voulu nommer, terminé. C'est les généraux qui ont pris le pouvoir. C'est donc une vision tout à fait assez old-fashioned et assez classique qui a repris le pas. Il avait, lui, des idées sur un reset avec la Russie terminé. On lui a collé le Russiagate
chaque jour.
On lui trouve autre chose. Mais c'est-à-dire que c'était neuf, quoi. Ça pouvait changer. C'était hyper pragmatique.
Obama l'a tenté déjà.
Enfin, mais non,
chaque président
tenté.
Américain, en arrivant au pouvoir, tente un reset avec la Russie.
Mais le reset à la Obama, c'était un reset encore moralisateur. Le problème, c'est que le monde entier en a assez de la morale. Il faut arrêter. C'est devenu. Il faut qu'on comprenne qu'il faut être très pragmatique et qu'en étant très pragmatique, on est bien souvent beaucoup plus humain. Suivez mon regard. Regardez le Moyen-Orient. Regardez ce qui s'est passé.
Définition du reset. Avec la Russie.
D'Obama ou de.
C'est l'idée qu'on redémarre, on redémarre. Et on oublie les mauvaises vibrations de la précédente.
On crée un partenariat.
Laurence Nardon.
Oui, alors sur cette reprise en main, effectivement, moi je trouve que on pourrait même parler d'état profond. Vous savez, alors l'état profond, c'est the deep state. C'est une théorie qui est très souvent avec des sous-entendus un peu complotistes. L'idée que finalement dans un état, ce sont en fait les intérêts militaires, industriels et aussi de renseignement qui en fait mènent la danse. Alors bon, faut prendre cette théorie avec des pincettes évidemment, mais c'est vrai que dans l'administration Trump, on a vu maintenant beaucoup de généraux à la manœuvre. Mais pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait un basculement complet. Et quand on observe ses actions depuis 2-3 mois, on voit plutôt, moi je trouve, un va-et-vient suivant les semaines, suivant les sujets, très imprévisible, entre un Trump qui est un personnage à la rationalité et à la psychologie quand même un petit peu étonnante. Donc ça, c'est le Trump un peu délirant qu'on voit s'exprimer de temps en temps par tweet notamment. On voit ce Trump qui est donc scripté, enfin qui est donc répète ou prend les avis de ses fameux conseillers relativement traditionnalistes, enfin en tout cas dans une vision de la vieille diplomatie old school américaine. Et puis moi je pense que le Trump jacksonien, il est toujours là, il s'exprime toujours de temps en temps, et on l'a vu notamment quand il est venu en Europe au mois de mai, ça remonte un petit peu, mais il avait été extrêmement jacksonien quand il était passé en Arabie Saoudite, il avait fait cette danse du sabre, souvenez-vous, et puis ensuite avec les Européens à Bruxelles, sommet de l'OTAN, il avait été extrêmement méprisant en disant que les Européens finalement profitaient des États-Unis, combien avait coûté ce nouveau bâtiment de l'OTAN qui était inauguré, etc. Et donc, pour ma part, je pense que la cohérence de cette administration Trump, il n'y en a pas, mais c'est plutôt un passage de l'un à l'autre de ces trois Trump.
Bertrand Badi.
Oui, je suis d'accord avec cette analyse, mais je voudrais renforcer quand même votre argument final. C'est-à-dire que l'idéologie est toujours là. Il ne faut pas minimiser le retrait des accords de Paris. Ça veut dire beaucoup plus qu'un choix pragmatique dans la gestion de l'opinion publique américaine. C'est quelque chose de très profond. C'est un homme qui ne croit pas à la gouvernance globale. Alors que le sujet numéro un dans les relations internationales d'aujourd'hui, c'est réaliser cette gouvernance globale. Il ne faut pas non plus sous-estimer le Muslim ban. C'est-à-dire qu'il y a toute une idéologie qui montre une construction très culturel, très borné du rapport au Moyen-Orient, une vision diabolisée. Les mots qu'il emploie lorsqu'il parle de l'Iran, les mots qu'il emploie lorsqu'il parle de l'islam, sont pas des mots innocents. C'est véritablement l'expression d'une idéologie profonde, et celle-ci va nourrir cet usage effectivement banal de la puissance militaire. C'est ça qui est inquiétant.
Caroline Galipéros.
Alors, oui, peut-être pour préciser les choses, le Muslim ban ne touche pas certains États, comme par hasard l'Arabie Saoudite, comme par hasard les États qui sont les alliés sunnites moyen-orientaux majeurs de l'Amérique. Maintenant, il y a un retournement de posture assez grave et assez inquiétant, pour le coup, vis-à-vis de l'Iran.
Où les choses s'étaient
apaisées du temps d'Obama, et où maintenant l'Iran est tous ergo dehors, absolument crispé, comme l'est redevenue la Russie, qui en a assez d'attendre un mieux. Et tous ces gens-là sont en train de se lier.
De gagner.
Oui, mais bien sûr. Donc il y a une vision quand même qui correspond à des intérêts très net, très clair.
C'est pas l'intérêt, c'est de l'idéologie.
Non, c'est pas
de l'idéologie. L'Arabie Saoudite contre l'Iran, c'est un choix idéologique.
Mais pas du tout, c'est le choix.
Et la fiction,
c'est
la fiction de l'opposition sunnite, c'est de l'idéologie qui n'a aucune substance, qui ne correspond à rien dans la réalité.
Pas du tout, c'est le fait de vouloir contrer une puissance régionale majeure, montante, qui va remettre en question tous les équilibres.
Ce qu'est l'Arabie Saoudite, une puissance régionale montante.
Non, pas du tout. Non,
simplement,
non,
c'est
non,
un
justement,
choix.
Justement, non. Bah, c'est juste l'allié majeur de l'Amérique dans la région. C'est
mais
pas
ça
une
n'est pas une puissance.
On écoute
quelques publicités et on se retrouve juste après.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Vers quel monde veut-il aller Donald Trump ? Est-ce qu'il en a l'idée d'abord ? Et s'il en a l'idée, avez-vous la même, Bertrand Badi ?
Qu'il a une représentation du monde. C'est un homme qui n'a pas une grande culture internationale. On le voit bien, d'ailleurs, souvent s'égarant dans ses analyses et dans ses références historiques.
C'était le cas de Ronald Reagan aussi, d'ailleurs.
Le cas, et de George W. Bush également, n'est-ce pas ? Contrairement à Barack Obama, c'est intéressant. Barack Obama a vraiment été le président de la mondialisation, c'est-à-dire celui qui voyait les États-Unis dans le monde. Bon, mais c'est un autre sujet. En revanche...
Comment les a-t-il laissés ?
Il n'a pas vu les autres États
avec des réalisations exceptionnelles. Je veux dire, la réconciliation avec Cuba, l'accord avec l'Iran, le début de la gouvernance globale. Non,
400 000 morts en Syrie, ça restera quand même sur
Parce que, et parce que vous croyez que votre fameuse intervention aurait pu arrêter l'hécatombe syrienne. Mais vous me posiez une question.
Oui.
Moi, je pense qu'effectivement, Trump a une représentation extraordinairement simplifiée du jeu international, pleine de stéréotypes. On en a dit un mot tout à l'heure, et une très grande naïveté sur la capacité de la puissance de pouvoir réaliser ce modèle. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire, le plus grand danger vient toujours des naïfs, c'est-à-dire de ceux qui croient qu'il est facile de réaliser un certain nombre de stéréotypes que l'on a dans la tête. Et c'est probablement le danger qu'il faut guetter. J'y ajoute ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans la mondialisation et la mondialisation est impossible sans gouvernance globale. Et le fait qu'il y ait non seulement aucune proposition venant des États-Unis en matière de gouvernance globale, mais un refus même du principe de la gouvernance globale, à partir de cette idée très simple qui consiste à dire, on verra au coup par coup si les intérêts nationaux des États-Unis sont compatibles avec, etc. C'est exactement ce qu'il ne faut pas dire dans le monde actuel. Et la force d'Obama, c'était de dire quelque chose de différent. justement, qui avait permis d'inaugurer un nouvel ordre international. Malheureusement, il a été très peu suivi par des leaders européens extraordinairement médiocres.
Donc, reste du monde.
Caroline Galacteros, alors qu'est-ce qu'il veut pour
vous ? Il a été très peu suivi par le reste du monde. Il y a un retour des États absolument tonitruant, on peut le regretter ou pas, mais c'est un fait.
Ah oui, avec des réalisations, des accomplissements tout à fait remarquables.
Mais je ne
c'est formidable.
Je ne porte pas de jugement de valeur.
Le nationalisme n'est que protestataire aujourd'hui. Ce n'est pas un projet. Comme disait Zvedan Todorov, le nationalisme n'a rien à vendre. Parce qu'il est en décalage par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui.
Eh bien,
on le voit à propos de la migration. Est-ce que vous croyez qu'on résoudra les problèmes de migration en construisant des murs alors que 40 000 malheureux sont morts au fond de la Méditerranée ?
Non mais attendez de parler. Évitez de parler à ma place, laissez-moi parler. D'abord, je ne parle pas de nationalisme, je parle du retour des États. C'est un peu différent. On peut parler des peuples, on peut parler des nations, on peut parler des patries. Ça ne veut pas dire forcément la vision étriquée des nationalistes. Maintenant, il me semble assez incontestable tout de même, depuis une bonne dizaine d'années, qu'il y a un retour des nations et des politiques de puissance pure et dure. On peut le déplorer, je le déplore. La gouvernance mondiale, bien sûr, je l'appelle de mes voeux, mais elle ne se fera pas sur un lit de rose, elle ne se fera pas avec des êtres sans colonne vertébrale. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pour finir, je pense que Donald Trump, qu'il ait une vision ou pas, malheureusement, je crains que ce ne soit plus tellement le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une vision pour lui. Sur l'Iran, c'est clair, on est en train de revenir à une politique. On a cru sous Obama qu'on revenait à la vieille politique américaine sur deux pieds, c'est-à-dire sunnite et chiite. Effectivement, Arabie Saoudite et Iran, ça c'était jusqu'à la chute du Shah, jusqu'en 79. Après, on est passé, à une politique anti-iranienne pendant très très longtemps, et Obama avait commencé.
C'est deux choses différentes, chère madame.
Laissez-la terminer.
C'est la puissance dominante du chiisme aujourd'hui, ça, le chiisme et l'Iran.
D'accord.
Oui, quand même. Voilà. Donc
alors,
on peut pas. Donc vous comprenez, on est passé.
Non.
Vous comprenez pas.
Non.
Bon, alors voilà. Sous Obama, il a essayé de revenir à ça, qui était une politique d'équilibre.
À la fois les
sunnites
et les chiites.
À une politique américaine sur deux pieds. Voilà. Tandis que Trump, lui, est en train de remettre l'Iran dans une position d'ennemi, de concurrent, et ça me semble extrêmement dangereux, grave, pour ne pas dire meurtrier sur un certain nombre de théâtres
on pourrait parler. Il est un peu difficile. Il est un peu difficile d'un côté de refuser à la Corée du Nord l'accès à la bombe nucléaire et puis de dire avec l'Iran finalement vous pouvez. Il y a aussi une forme de cohérence par rapport aux questions alors qui sont de gouvernance mondiale, de la non-prolifération et puis par rapport aux intérêts américains qui sont assez compréhensibles quand même. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Obama. Évidemment, Trump n'est pas un intellectuel. Évidemment, ses connaissances en relations internationales étaient assez limitées, même si faut quand même noter qu'il est marié à des européennes, plusieurs successives. Donc, il avait quand même cette ouverture-là. Moi, je crois que Obama avait aussi une forme de naïveté. Vous parliez des naïfs de naïveté à propos de Trump. Cette forme d'acceptation des ennemis américains, cette idée selon laquelle finalement une bonne partie des problèmes du monde sont causés par les États-Unis, et c'est en réduisant la puissance américaine, en s'accordant avec les ennemis de l'Amérique, qu'on va arriver à un monde heureux et confraternel. Moi, je crois que c'est aussi une forme de naïveté, et je ne suis pas certain, et là je pense que beaucoup de commentateurs étaient de mon avis, que fin 2016, quand Obama quitte le pouvoir, il laisse un nouveau système mondial parfaitement équilibré, où tout le monde vit en harmonie. C'est plutôt le contraire. Donc je pense que Trump, avec toute la brutalité, la naïveté qu'on peut lui reprocher, il tente, à sa manière, de remonter la pente par rapport à cette situation.
Laurence Nardon.
Oui, en fait, pour finir l'émission...
Il vous reste une minute, d'ailleurs.
Ok, j'ai une minute. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon avis, la vraie... Enfin, si on peut dépasser notre débat qui est très intéressant aujourd'hui, il faudrait essayer de voir comment un prochain président américain pourra retomber sur une pratique plus prévisible, plus rationnelle, plus rassurante pour les alliés. Mais, à mon avis, il ne reviendra pas sur ce retrait américain qu'on observe depuis, à mon avis, George Bush fils, deuxième mandat. Le style sera sans doute différent, mais je crois que la direction générale sera la même.
Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Laurence Nardon, Caroline Galacteros, Guillaume Lagan et Bertrand Badie.